Un tango, une danse, un baiser, et un sourire.
Par les temps qui courent.
Ça y est, puis 21h.
Il y a des figures qui nous ouvrent des portes, justement. Parfois, ces figures, ces êtres ne le savent même pas. Quelque chose a lieu pour nous, sans qu'on le sache.
Voilà ce que c'est, une vaste école, une grande leçon de 450 km, une leçon de survie. Tous les hivers, plusieurs dizaines de jeunes cavaliers Sioux Lakota chevauchent dans le froid glacé, reprenant la route que leurs ancêtres ont tracée il y a 125 ans et se faisant raconter d'étape en étape quelques bribes de l'histoire dont ils n'ont pas toujours connaissance. Nous non plus au passage, et l'Amérique non plus très souvent. Le massacre de Wounded Knee, la confiscation des terres, l'évangélisation, l'interdiction de pratiquer sa religion ou de parler sa langue. En même temps qu'ils apprivoisent leurs montures et ces paysages insensés, ils reprennent possession de leur mémoire et de leur présent. Stéphanie Gillard, cette chevauchée dure une quinzaine de jours. Votre film The Ride la retrace en presque une heure et demie et il sera en salle la semaine prochaine. Bonsoir et merci d'être là.
Bonsoir.
Mes chers parents, c'est un bon jour aujourd'hui. Je sais qu'on commence normalement en bas, et quand vous arrivez ici, un repas vous attend normalement. Mais comme vous n'avez pas commencé en bas, vous n'avez pas parcouru les 10 premiers kilomètres, vous ne mangerez pas. Là, vous n'avez pas encore faim. Mais vous aurez faim pendant cette chevauchée. Nos ancêtres sur cette route n'avaient pas emporté de vivres avec eux, ils n'avaient rien. Pourquoi sommes-nous ici ? Pour honorer la mémoire de nos parents qui ont emprunté cette piste il y a plus de 120 ans. Et soyez-en sûrs, ils étaient plus affamés que vous ne le serez ici. Et ils ont su l'endurer. Je sais que la première fois sur un cheval, on a peur. Mais en montant, on prend confiance. De plus en plus confiance. Nous n'attendons pas de vous que vous ayez ces valeurs en vous. Mais cette chevauchée contribuera à vous les enseigner. La sagesse. Faire corps avec votre cheval. Le courage. Sauter sur son cheval. Et quand il fait moins 30, rester en selle. Voilà qui exige du courage. Je revois cet enfant qui montait avec nous et qui avait mal partout. Je lui ai dit, descends du cheval. J'ai décellé son cheval, porté sa selle dans le camion. Je me suis retourné, il avait sauté sur son cheval pour repartir à cru. Plus loin, je lui ai dit, je croyais que tu avais mal. C'est ma selle qui me fait mal, il m'a dit. Quand j'ai retiré sa selle, il avait des larmes plein les yeux. C'est vous dire comme il souffrait. Mon nom est Ron, mais ne m'appelez pas Ron. Pour vous les jeunes, je suis votre oncle, pas votre grand-père. Votre oncle. Si votre cheval faiblit, nous serons là pour vous. Prenez du bon temps, prenez soin de vos montures et veillez les uns sur les autres.
Stéphanie Gillard, c'est le début ou quasiment de votre film. Le début est plus silencieux, plus dans la neige, plus dans les routes. Ici, on entend, grâce à la traduction de Samuel Bernard, la voix de Ron qui dispense quelques conseils et donne quelques bribes de sens pour entreprendre la grande route qui attend les jeunes cavaliers. Comment est-ce que vous vous êtes, vous, retrouvé sur cette route-là ?
C'est une longue histoire. En fait, ça faisait longtemps que je voulais faire un film dans ce coin-là, enfin en tout cas que je voulais visiter ce coin-là. Et je voulais faire une adaptation de l'œuvre de Jim Harrison, mais en documentaire. Du coup, je lisais à peu près tout ce qu'il avait lu. Et
ce qu'il avait écrit.
Ce qu'il avait écrit.
Il a certainement lu pour le film.
Voilà. Et du coup, je suis tombée sur un livre de photos dont il avait écrit la préface. Et ce qui m'intéressait dans l'œuvre de Jim Harrison, c'était que dans tous ses livres, les personnages sont un peu à la recherche des traces de l'histoire dans le territoire américain. Et quand je suis tombée sur ces photos, mais finalement, elles révélaient exactement ce qu'il y avait dans ces livres. Ces photos, elles représentaient des cavaliers Sioux qui dévalaient des grandes plaines, et suivis par quelques voitures. Donc en fait, les photos, on n'arrivait pas trop à savoir si c'était des photos qui avaient été prises il y a 100 ans ou aujourd'hui. Et finalement, c'était les vêtements, les voitures qui pouvaient nous donner l'impression que c'était aujourd'hui. Donc dans une même image, il y avait le passé et le présent qui se côtoyaient. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est ça que j'ai envie de raconter dans l'œuvre de Jim Harrison. Donc plutôt que l'œuvre de Jim Harrison, peut-être qu'il faudrait que j'aille voir qu'est-ce que c'est que cette chevauchée et voir si on peut en faire un film.
Et alors c'est quoi cette chevauchée ? Parce qu'on va revenir sur Jim Harrison et son rapport aux Indiens, le vôtre peut-être, votre rapport à ce texte. Mais quelques mots sur ce début qu'on vient d'entendre. Ils chevauchent pendant 450 km, je l'ai dit. Ils sont qui et pourquoi le font-ils ?
Alors en fait, c'est une chevauchée qu'organise chaque année depuis 25 ans à peu près un groupe de Sioux Lakota pour commémorer le massacre de Wounded Knee. En fait, en 1890, les Sioux étaient déjà dans des réserves et ils ont commencé à pratiquer la ghost dance, qui était une pratique spirituelle ou religieuse, qui était une forme de danse et qui... Le propos de la danse, c'était que s'ils pratiquaient cette danse-là, tous les Blancs qui étaient arrivés aux États-Unis repartiraient, en fait. Donc, tous leurs problèmes partiraient. Et quand ils ont pratiqué cette danse, en fait, le gouvernement des réserves a commencé à s'inquiéter de les voir danser dans la neige. Ils se sont dit, ils vont se soulever. Du coup, le gouverneur de la réserve de Standing Rock a envoyé la police pour arrêter Sitting Bull. Et en envoyant la police l'arrêter, il a été tué. Et son peuple, sa tribu, a eu peur en se disant « mais ils vont tous nous massacrer, donc allons-nous-en ». Ils sont partis, ils ont rejoint un peu plus au sud, à Bridger, le groupe de Bigfoot, qui est un autre chef Lakota. Et Bigfoot les a accueillis, évidemment. À ce moment-là, le 7e de cavalerie, celui qu'ils avaient battu à Little Bighorn, est arrivé en disant « on sait que vous accueillez des renégats, on les veut ». Et Bigfoot a dit « non, non, non ». Et ils sont partis pour rejoindre Red Cloud, encore plus au sud, vers Pine Ridge. Et en fait, ils ont été poursuivis par le 7e de cavalerie. Ils ont été arrêtés le 28 décembre. Ils ont rendu les armes, ils ont déposé les armes. Et le 29, on les a tous massacrés. Donc il y avait à peu près 300 morts. Voilà. Et en fait, c'est en mémoire de ce massacre que la chevauchée a lieu depuis 1986.
Voilà. Et on entendait dans la voix de Ron que les conditions de cette chevauchée étaient extrêmement difficiles. Là, il faisait une blague en disant « bon, normalement, vous arrivez ici, vous avez un petit truc à manger ». Non, en fait, comme vous n'avez pas fait les premiers 10 km à cheval, vous n'avez rien. De toute façon, faim, vous allez avoir faim. Comme si l'un des endroits intéressants de cette chevauchée, c'était de revivre dans son corps, tant que c'est possible, la très grande difficulté des kilomètres parcourus par leurs ancêtres.
Oui, c'est exactement ça. En fait, cette chevauchée, elle a d'abord un but spirituel. Ils sont là pour prier parce qu'ils savent qu'ils reprennent le chemin des ancêtres. Donc, dans leur croyance, les esprits de ceux qui sont morts sont sur cette route-là. Donc, ils vont les croiser. Mais c'est aussi pour apprendre par l'expérience à endurer ce que les autres ont enduré, c'est-à-dire le froid, dormir dans des conditions déplorables, pas savoir si on va avoir à manger, être fatigué, faire des kilomètres et des kilomètres et en essayant d'arriver à temps, avant la nuit. Voilà. Et en fait, quand on le vit, ben, on ressent un peu plus ce que les autres ont vécu, sauf que au lieu qu'on nous le transmette par le par juste des discours, ben on le ressent et on l'apprend peut-être un peu plus. Quoi.
Et les deux seront là, évidemment, on en reparlera. À la fois, ils incorporent cette histoire et à la fois, on la leur raconte. Il y a un ingrédient absolument essentiel dans cette chevauchée, ce sont les chevaux. Dans la voix de Ron, il y a aussi l'idée que l'école du cavalier, l'école de celui ou celle qui monte à cheval est une école de vie. Et il leur dira à la fin, qu'est-ce que vous avez eu, vous, comme rapport, là, en tant que cinéaste, avec ces animaux-là?
Moi, je suis pas du tout cavalière à la base.
Raison de plus.
J'ai découvert ça comme les jeunes qui venaient pour la première fois. En fait, j'ai appris la même chose que eux. J'ai appris à m'occuper de mon cheval quand je montais à cheval. J'ai appris à lui donner d'abord à manger avant de prendre mon petit déj le matin, même si j'avais dormi dehors. J'ai appris à m'occuper des autres. J'ai appris à souffrir et rien dire. J'ai appris à être courageuse, quoi. Et ouais, c'est ça. À endurer sans se plaindre, en fait. C'est cette chevauchée, elle sert pour tout le reste de la vie dans les réserves, en fait. C'est un peu une école de résilience. Le reste de l'année, c'est pas très joyeux, tout ce qui se passe dans les réserves, mais finalement, ils attendent tous, enfin tous ceux qui participent à la chevauchée attendent ce moment, ces 15 jours où ils vont être tous ensemble et où finalement on va pas mal s'amuser, on va être heureux d'être tous ensemble même si on souffre. Et c'est, ce moment-là sert à supporter tout ce qu'ils doivent supporter le reste de l'année entre le racisme, le chômage et toutes les la pauvreté, toutes les difficultés auxquelles ils font face tout le temps.
C'est assez impressionnant pour nous qui faisons écouter des films à la radio assez régulièrement, la qualité sonore du vôtre, c'est dire combien à la fois dans la prise de son éloignée du galop d'un cheval, dans celle beaucoup plus proche d'une prise de parole de Ron ou de l'interview de certains enfants ou d'un intérieur habitacle voiture et j'en passe, ou d'un vent dans la plaine, la finesse de la prise de son, est-ce que ça a été un travail important et comment vous avez travaillé?
Ouais, j'avais une super équipe son. Enfin, j'avais un ingénieur du son qui était vraiment fabuleux à la prise de son sur le tournage.
On n'a qu'à dire son nom, comme
Erwan Kerzanet, qui a tout pris à la perche. Et puis après, j'avais un monteur son et un mixeur exceptionnel aussi. Mais le son, pour moi, ça a été important dès mon premier voyage là-bas. En fait, j'avais vu les photos. Je m'attendais à quelque chose quand j'y allais. Et quand j'ai rejoint la chevauchée la première fois, je suis arrivée au point de départ, il y avait ce cercle de cavaliers tous ensemble. Finalement, ça ressemblait à ce que j'avais vu dans les photos. Et quand ils ont commencé à chanter et à partir avec le tambour et les cris et les chants indiens, j'ai eu la chair de poule parce que j'avais pensé à tout, j'avais pensé aux images, mais j'avais pas pensé au son. Et le son, en fait, m'a tout de suite fait penser, évidemment, au son que j'avais pu entendre dans les westerns. Et, sauf que là, c'était réel. Et là, je me suis dit, mais c'est peut-être encore plus pour le son que pour l'image, il faut que j'en fasse un film pour le cinéma. Parce que je savais que ce son-là, il pouvait pas être retranscrit pour la télévision.
Et c'est un son qui permet évidemment de rendre le corps chantant, le corps des cavaliers, mais qui permet de rendre la nature qu'ils traversent. Et je trouve que, bien sûr, il y a les images que vous faites, mais j'ai l'impression que le caractère vaste, il vient aussi de ce son qui est pris de cette manière-là.
Comment
est-ce que, par exemple, ça veut dire faire attention chaque jour à faire des ambiances quotidiennement, quelle était l'attention qui était portée à ça?
Alors, j'ai une histoire un peu rigolote à vous raconter. Quand j'ai fait mon casting d'ingé son, j'ai rencontré Erwan et puis je lui expliquais que mon film il se passerait entre les grands espaces et les voitures et il me disait, mais ce qui pourrait être pas mal, c'est qu'on pourrait équiper les voitures avec des HF, etc. Pour ça, quand on tourne en voiture, tout est équipé, ça sera super. Et je le regarde, je lui fais, mais jamais on pourra faire ça, parce que tu vas équiper une voiture, et puis tu peux être sûr que la personne qu'on veut filmer, elle va monter dans une autre voiture. Il me dit, non, tu vas voir, ça va être super. Il a emmené une cantine de matériel son. Et après, le deuxième jour de tournage, quand on a filmé cette séquence avec le bronc, le cheval qui rue dans tous les sens, qui n'est pas dressé, il est venu me voir et m'a dit en fait t'as raison, je vais tout faire à la perche. Et en fait bah c'était ça, il a tout fait à la perche. Alors au début il luttait contre les voitures parce qu'il y avait toujours des moteurs qui tournaient au loin, parce que les gens gardaient leurs moteurs allumés pour garder le chauffage dans leur voiture. Et il allait les voir un par un pour leur demander d'éteindre le moteur, et puis finalement au bout d'un moment il a accepté que ça faisait partie du paysage sonore. Et voilà, après, c'est, j'avais pas besoin de lui donner beaucoup d'indications, à part de suivre les conversations qui, moi, m'intéressaient. Mais après, je crois que j'avais trouvé un super ingé son qui avait les oreilles grandes ouvertes et qui écoutait tout ce qu'il y avait autour de lui, quoi.
When I was young, I was obsessed with Indians because my father knew so much.
Lorsque j'étais jeune, je me suis intéressé aux Indiens. J'avais une fascination pour les Indiens d'Amérique en raison de l'influence de mon père, qui connaissait très bien la culture des Indiens, notamment ceux qui vivaient dans le nord du Michigan.
They live on the margins, you know.
Et il est vrai que ces Indiens vivent en marge de la société américaine. Un petit peu comme les écrivains d'ailleurs, qui de par leur nature sont eux aussi des gens à l'extérieur de la société.
La dernière chose à laquelle un Américain doté de la moindre conscience morale désire penser, ce sont les Sioux. Autant oublier qu'on a des coudes avant de s'en cogner un, douloureusement, contre une porte. Ça vous arrête net, et cette douleur bénigne vous rappelle des événements nettement plus pénibles. Par exemple, le jour où vous êtes fracturé le dos ou le cou. Les premiers habitants de l'Amérique formaient plus de 500 tribus. Nous n'en avons traité aucune aussi mal que les Sioux. Tout cela est à la fois parfaitement connu et scrupuleusement ignoré des politiciens et des gens intelligents et tenu secret du commun des mortels. La Statue de la Liberté, cette salope fréquemment malveillante, souffre d'une énorme tumeur abdominale qui a envahi son cerveau et ses yeux. Dès qu'il s'agit des premiers habitants de l'Amérique, elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer ou de la vache folle. Elle a oublié son passé et ses yeux aveugles sont incapables de voir le sort terrifiant réservé à la plupart des tribus indiennes. Pendant ce temps-là, elle bousille la Chine et piétine Cuba à mort, tout en préférant oublier les cultures autochtones qu'elle a déjà détruites. Que faire ? Il faut la boucler. Cesser de leur donner des conseils corrompus. Mais d'abord et avant tout, nous devons procéder à des réparations. Stéphanie Gillard, vous avez tout à l'heure, au départ, pour répondre à la question de savoir comment vous vous étiez, vous, retrouvé sur la route de cette chevauchée, évoqué l'œuvre de Jim Harrison. On vient d'entendre d'une part sa voix et parler de la manière dont il avait hérité de l'intérêt pour les Indiens via son père. Et ici, un petit bout du texte en introduction du livre de photographie que vous évoquiez vous aussi. Alors pour être un peu plus précis sur ce qui vous lie à l'œuvre de Jim Harrison et peut-être surtout sur le lien que vous avez voulu faire entre cette œuvre-là et le cinéma. Je sais pas, vous nous racontez aussi une petite histoire comme tout à l'heure. Comment tout ça vous arrive entre les mains ?
Alors en fait, il faut savoir que ma sœur vit aux États-Unis depuis 25 ans. Elle est citoyenne américaine maintenant. Donc j'y vais très souvent. Et en 2000, on est allé visiter l'Ouest américain et j'ai fait ma première rencontre avec des Indiens Navajos. On était à Monument de Vallée et puis j'ai fait des pieds et des mains à mes parents en leur disant « Moi, je suis à Monument de Vallée, je veux faire du cheval. » J'avais jamais fait de cheval, mais je me disais « Là-bas, il faut faire du cheval. » À cause des films de John Ford, hein, évidemment. Et du coup, j'ai été faire une balade de 2 heures à cheval avec un guide Navarro et il y avait un New Yorkais aussi avec moi. Et c'était complètement magique. Et je me souviens d'une petite discussion qu'on a eue dans cette balade à cheval. Le guide Navarro nous a demandé qu'est-ce qu'on faisait dans la vie. Moi, à l'époque, j'étais étudiante en cinéma. Et le New Yorkais lui dit « Mais moi, je suis promeneur de chiens. » Et le type lui répond « Mais nous, on les mange. » Et j'ai explosé de rire. Et je m'attendais pas du tout à cet humour indien que j'ai retrouvé beaucoup après quand je suis retournée chez les Sioux. Voilà, après cette rencontre-là, j'ai lu beaucoup Jim Harrison, c'est un écrivain qui m'a beaucoup marqué, Dalva et La Route du Retour, notamment. Et j'ai vu beaucoup de westerns aussi quand j'étais petite, et du coup, j'ai toujours eu une espèce de vision mythique de cet endroit des États-Unis. Donc je voulais y aller, mais je voulais pas y aller comme une touriste. Je voulais aller rencontrer des gens, en fait. C'est ce qui m'a amené là-bas.
Mais dans le texte de Jim Harrison et évidemment dans le film que vous réalisez, Stéphanie Gilliard, il y a vraiment la question des origines et de la fondation des États-Unis et de l'extrême violence de cette fondation des États-Unis. Alors, on lit l'introduction de ce livre de Guy Le Querec, des photos de Guy Le Querec qui vous ont amené sur cette piste-là, d'une part pour parler de ce livre-là et de photographie, mais aussi pour dire que la position d'Harrison, elle est très claire. Il dit cette salope de statut de la liberté. Donc il y a aussi un endroit qui fait que vous n'allez pas à n'importe quelle place aux États-Unis,
non,
ni auprès de n'importe quelle personne.
Non, mais peut-être que depuis que ma sœur est devenue citoyenne américaine, je me suis posé beaucoup de questions par rapport à ce pays, mais même avant qu'elle devienne citoyenne américaine, quand elle a décidé d'émigrer là-bas. On dit toujours qu'il n'y a pas d'histoire aux États-Unis, il y en a une, et moi, mon côté français, avec justement cet apprentissage de l'histoire, faisait que je m'interrogeais tout le temps sur l'histoire américaine, et je comprenais pas pourquoi on la voyait pas. Ouais, c'est ça qui m'a amené là-bas. Enfin, mais d'ailleurs, oui, il y a pas de trace hein, de ça là-bas. Enfin, Wounded Knee, c'est rien. Enfin, il y a très peu de. Il n'y a pas de monument comme nous. On va se
rendre pour commémorer des moments
historiques. Il y a très peu de choses, mais il y a des traces dans ce que portent en eux les gens. Donc, mais ça, ils veulent pas le voir, mais ça y est.
Quand vous dites ils veulent pas le voir, c'est quoi? C'est une autre partie de l'Amérique?
Les Américains en général, enfin oui, les Nord-Américains, les États-Uniens, comme dirait Godard.
Ce qui est intéressant, c'est que presque au récit des origines de votre propre film, vous faites se rencontrer presque deux Amériques. Je promène des chiens, je suis New-Yorkais, et nous, on les mange comme si c'était vraiment une espèce de gap, un trou infranchissable entre deux populations qui néanmoins partagent un territoire immense, certes, mais le partage aujourd'hui.
Ouais, mais je pense que c'est presque infranchissable, et peut-être que moi moi à cheval entre les deux, ça m'a fait rigoler parce que j'arrivais à comprendre les deux, et c'est peut-être ça qui a fait qu'une Française pouvait peut-être parler de ça, je sais pas. Enfin, je me suis beaucoup posé de questions par rapport à ma légitimité à faire ce film-là en tant que Française. Et
pourquoi c'était votre nationalité qui vous questionnait?
Déjà, c'était pas mon histoire, c'était pas l'histoire de mon pays. Il y avait ça, et ensuite le fait que je sois encore une énième blanche qui fasse un film sur les Indiens. Ça me posait beaucoup de problèmes, parce que je me dis, ça serait quand même mieux que ce soit eux qui le fassent. Et du coup, je me demandais si j'avais vraiment le droit de le faire ou pas.
Et comment ce droit vous a-t-il été accordé, ou bien comment vous l'êtes accordé vous-même?
Ah, mais il y a des moments où je pense que j'aurais pas dû le faire. Il y a encore des moments où je doute. Je l'ai un peu pris, le droit, et puis bon, ils m'ont fait confiance, mais peut-être que je l'ai pris parce que je me suis rendu compte que si c'était encore un Américain qui le faisait, ce serait ce film sur cette chevauchée, ça serait pas raconté comme moi je la voyais, et que ce serait peut-être un documentaire un peu plus mainstream.
ou spectaculaire, pour reprendre par exemple la réflexion d'Éric Villard, qui réfléchit beaucoup sur la mise en spectacle des Indiens, sur la manière dont les États-Unis, Hollywood aussi, ou une forme d'entertainment a adopté certains codes, a mis en scène. Est-ce que vous avez dit qu'il fallait que vous échappiez à certaines choses en tournant ce film-là?
Oui, mais alors pas tellement dans l'ordre du spectaculaire, c'est plus parce qu'il y a eu d'autres films qui ont été faits sur la chevauchée et qui pour moi ne racontaient pas le quotidien de la chevauchée. En fait, ils en faisaient quelque chose de très politique. Et ce que je trouve assez beau dans la chevauchée, c'est qu'elle est politique, mais ils ne le font pas pour des raisons politiques. Elle est politique parce que forcément, de voir 150 cavaliers sioux à cheval débouler sous une autoroute, ça a du sens. L'image, elle a du sens. Et tous les rednecks qui habitent autour et qui peuvent pas les blairer, ils ont du mal à supporter cette image-là. Mais quand ils le font pas pour ça. Ils le font pour eux-mêmes. Ils le font pas du tout pour revendiquer quelque chose par rapport au gouvernement ou autre. Et tous les films que j'avais vus, pour l'instant, qui étaient plutôt des films américains, mettaient en avant ce côté discours politique, etc. Et cachaient complètement le côté humain, le côté famille, le côté transmission qu'il y a dans cette chevauchée, et que je trouve super important. Moi, quand je leur ai dit pourquoi je faisais ce film-là, pourquoi je voulais le faire, je leur ai dit, mais parce que pour moi, ce que vous faites là, dans cette chevauchée, c'est une leçon pour le monde entier. C'est arriver à créer un événement heureux à partir de quelque chose de dramatique. Je trouve ça magnifique. Et il y a très peu de gens qui sont capables de ça. Et quand vous faites ça, bah, pour moi, c'est un exemple pour la Terre entière. On devrait tous en tirer une leçon.
Et monter sur des chevaux.
Ouais.
Par les temps qui courent, Marie Richeux.
Remember when we were young, we'd laugh and play, and thought it would stay that way. We'd laugh and play, and thought it would stay that way. All I know, hey, all I know, hey, hey, oh, hey, all I know, hey, all I know, hey, I know, oh, hey, oh. Don't shed a tear, I'm still right here. You'll catch me with the setting sun, but don't forget we fought for freedom. I know where you're. All I know, hey, all I know, hey, hey, oh, oh, hey. How I knew it, how I knew it, I knew it. When it's all said and done, I'll remember you for what you've done. I'll remember. All through life's run, I know don't shed a tear, I'm still right here. You'll catch me with the setting sun, but don't forget we fought for
J'aimerais vous remercier tous, en particulier les jeunes garçons qui montent demain, les filles aussi. À l'époque du massacre de Wounded Knee, mon père en parlait souvent. Il avait 12 ans à l'époque. D'une façon ou d'une autre, la 7e de cavalerie, ils ont tiré sur ce campement. Ils ont pris tous leurs armes, leurs flèches, leurs couteaux, tout. Ils les ont déposés au sol. Ils n'avaient plus rien. C'est après cela que les hommes du 7e leur ont tiré dessus. C'est ainsi que tous ces gens ont été tués. Moi, je montais à cheval autrefois. Mais je n'en suis plus vraiment capable. J'aimerais me trouver un poney et le monter. On sera bien ensemble.
Stéphanie Gillard, c'est un extrait de votre film The Ride. Et Samuel Bernard traduit la voix d'un homme qui ne peut plus monter à cheval parce qu'il est assez âgé, voire très âgé. Et il s'exprime au milieu d'une assemblée. Vous parliez tout à l'heure de montrer la vie quotidienne de cette chevauchée. Elle est ponctuée de quoi, cette vie quotidienne ?
Alors, on dort dans des gymnases. Le matin, il y a toujours une famille du coin qui nous amène un petit déjeuner. Et puis après, on va s'occuper des chevaux, on les prépare. Et on fait plusieurs kilomètres à cheval. Alors ça dépend, des fois c'est 20 kilomètres dans la journée, des fois c'est 70 kilomètres. Et puis on arrive, on se remet en cercle, on prie. Et puis on va dans un autre gymnase. Et souvent le soir, il y a des aînés qui viennent raconter des histoires, parce que par exemple, ce vieil homme, c'est le fils d'un monsieur qui a vécu le massacre de Wandenie, parce que c'est une histoire finalement assez récente. Et voilà quoi. Alors il y a deux nuits dans toute la chevauchée où on dort dehors, parce que c'est les deux nuits où on n'est pas sur le territoire des réserves, et du coup il y a aucune commune qui veut les accueillir. Donc on campe sur des champs où il y a des fermiers qui acceptent qu'on dorme. C'est ça la chevauchée. Il se passe rien d'autre. Et alors si, tous les trois jours, il y a un jour de repos. Mais c'est un jour de repos pour les chevaux, hein. C'est pas un jour de repos pour les
humains.
Pour les humains, puisqu'il faut quand même aller s'occuper des chevaux, leur donner à boire, à manger.
Vous avez insisté sur la dimension de la transmission de cette histoire, en effet extrêmement centrée sur ce massacre de Wandenie, mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a à la fois l'histoire des Sioux Lakota qui se transmet comme ça de jour en jour pendant toute la chevauchée, et puis il y a tout ce qui vient avec cette chevauchée, la question du courage, la question du rapport à l'animal, la question de l'entraide entre les jeunes, si bien que ça devient une forme, oui, d'école de la vie, où ces jeunes gens grandissent, presque mûrissent depuis le début de la chevauchée jusqu'à la fin. Ça fait que vous filmez des enfants, vous filmez des corps d'adolescents, vous les avez filmés comment ? Et en plus, peut-être dans quelle mesure ça vient être une continuation d'un travail que vous avez déjà fait dans vos autres films ?
Alors oui, les adolescents sont très importants dans cette chevauchée, parce qu'en fait, à l'origine, c'était une chevauchée qui était que pour les adultes jusqu'en 90, et elle devait s'arrêter en 90. Sauf que il y avait quelques gamins qui y étaient allés, notamment AJ, qu'on voit dans le film, qui est un adulte maintenant, et qui, après 90, un petit groupe de jeunes ont été voir les aînés en disant « Mais nous, on veut continuer à faire cette chevauchée. » Et les adultes ont dit « Non, non, il y a eu la cérémonie de deuil, ça y est, c'est fini. »
C'était 100 ans après.
Voilà, on ne peut plus le faire. Ils ont insisté, et finalement les aînés leur ont dit « D'accord, vous pouvez la faire, mais il faut changer de nom. » Donc maintenant, en fait, elle s'appelle la Future Generation Ride, la chevauchée des générations futures. Donc en fait, le concept a un peu changé, puisque les quatre premières chevauchées, c'était pour commémorer le centenaire de Wandenie et faire cette cérémonie de deuil qui n'avait pas eu lieu en 1890. Et les suivantes, en fait, sont devenues des chevauchées où des adultes emmènent des jeunes, pour leur transmettre des valeurs et parfois leur apprendre à monter à cheval, parfois leur apprendre un peu de langue Lakota, parfois un peu leur apprendre un peu d'histoire, parfois leur apprendre à juste se tenir à table ou en société. Enfin, ça dépend en fait des groupes d'enfants, ça dépend des adultes qui les emmènent. Chacun fait un peu comme il veut. Il y a pas vraiment, il y a pas d'organisation officielle. Il y a pas un organisateur. C'est chacun vient avec les gamins de son quartier ou de sa rue. Alors c'est vrai que moi les adolescents et les enfants, j'en ai filmé dans tous mes films. et je ne sais pas pourquoi.
Alors, sans savoir pourquoi, peut-être dire le plaisir que vous avez à le faire.
Ouais, bah c'est souvent je fais face à des jeunes que je trouve un peu espiègles et souvent dans des situations très difficiles, mais qui ont un regard très fin sur la vie et très positif, et ça m'est pas tout le temps. Jesse James, qui est un des personnages récurrents du film, la première année où je l'ai rencontré, c'est ma première chevauchée. Au bout de 3 jours, je me souviens, on est arrivé dans le community building de Eagle Butte, où il y a toutes ces peintures qui représentent l'arrivée des colons aux États-Unis, le massacre de Wounded Knee.
Une figuration de cette histoire,
voilà, quoi. Plein de choses comme ça. Et donc j'arrive, je m'assieds sur un banc et il vient s'asseoir à côté de moi, il devait avoir 9 ans, et il commence à me décrire toutes les peintures. Et le gamin, je le connaissais pas et je le trouvais super étonnant, et je me suis dit bon bah si un jour je fais un film, je lui demanderai de me raconter les peintures pour le film, parce que c'était merveilleux d'avoir un enfant qui racontait son histoire, enfin l'histoire de son pays, puisque l'histoire de son peuple plutôt, puisque finalement dans tous les films que je voyais sur les Indiens, c'est tout le temps des blancs qui la racontaient, ou des historiens blancs souvent, et jamais eux-mêmes. Alors je savais que lui, il la racontait pas précisément, qu'il y avait des erreurs, mais ça m'intéressait beaucoup plus que ce soit raconté par son regard à lui, et ce qu'il en avait gardé, ce qu'il en avait retenu, même avec ses erreurs, parce que ses erreurs aussi, elles racontent quelque chose. Donc voilà, c'était ça qui m'intéressait dans cette transmission et cette présence des ados. Et puis aussi parce que les ados qu'on voit dans la réserve, ils sont très très mal en point. La première année où j'y suis allée, dans le discours la veille du premier départ, j'ai appris qu'il y avait eu 17 suicides de jeunes dans les 2 mois précédents sur la réserve de Standing Rock. Alors la réserve de Standing Rock, je crois que c'est même pas 10 000 habitants. Donc c'est énorme, 17 suicides de jeunes.
C'est l'inverse d'une génération future.
Ouais. Dans le film, il y a plusieurs personnages qui se sont suicidés depuis que le film a été tourné. Voilà.
Et pourtant, on voit sur vos images des jeunes gens qui cherchent, des jeunes gens qui sont là. Alors certains qui sont plus traversés de vitalité que d'autres. En effet, on en voit qui sont beaucoup plus errants dans leur corps, dans leur regard. Déjà, c'est palpable à l'écran. Mais on en a d'autres qui accrochent des choses. Qui, par exemple, en vous disant voilà, c'est ça mon nom indien. Ou moi, j'ai un nom indien, puis j'ai aussi un nom américain. Moi, j'ai que un nom indien. On sent bien que ce sont des gosses qui cherchent à être ce qu'ils peuvent dans un pays où ils sont à la fois des citoyens américains et des Sioux Lakota.
Oui, bah c'est toute la problématique. C'est comment on fait pour être citoyen d'un pays qui a massacré son peuple. C'est très, très compliqué. Et moi, j'ai pas de réponse à ça. J'arrive toujours pas à comprendre comment ils endurent ça et comment ils font pour le porter et le vivre. Je pense que c'est vraiment très dur. Et chacun répond avec ses moyens, quoi. D'une manière générale, ce que j'ai remarqué, c'est que ceux qui viennent régulièrement sur la chevauchée, ils sont en meilleur état que les autres. Mais c'est ma perception, hein. Peut-être que je me trompe. Je connais quand même assez bien la réserve, mais peut-être moins bien que des spécialistes. Et puis j'ai une vision par une entrée, mais c'est quand même l'impression que j'ai eue, aussi bien au niveau des jeunes que des adultes d'ailleurs. C'est j'ai l'impression que les valeurs qui retirent de ces 15 jours annuels, ça crée comme une espèce de colonne vertébrale pour eux et qui leur permet de tenir toute l'année.
D'ailleurs, il y en a un qui s'exprime lors d'une des veillées dans un gymnase et qui dit « ça fait 4 ans que je ne suis pas venue et ça m'a manqué ». Je suis content d'être là, quoi.
Et ce personnage-là, en fait, revient de 4 ans en Afghanistan. Et parce que c'est souvent des vétérans, il doit avoir à peu près 20 ans. Il a fait 4 années dans l'armée en Afghanistan. Et il n'arrive pas à parler devant son peuple. Et ça devient presque pour lui plus dur de parler devant son peuple que ce qui vient de vivre 4 ans en Afghanistan. Ils ont un tel manque d'assurance que juste prendre la parole en public devient compliqué.
Il y en a qui sont un tout petit peu moins présentes devant votre caméra. Stéphanie Gillard, ce sont les cavalières. Est-ce que ça reflète quelque chose de cette chevauchée ou est-ce que c'est le hasard du tournage? Comment vous expliquez ça?
C'est plus le hasard du tournage. En fait, ce qui était très compliqué sur ce tournage, c'est moi je l'avais fait deux fois avant de faire le film.
La chevauchée, vous
voulez dire? La chevauchée, voilà. Et puis j'avais passé tout un été là-bas. J'avais été plusieurs fois en voyage dans le Dakota. En fait, c'est de savoir qui va être là l'année. Voilà. Donc j'avais beau appeler les gens, leur écrire, leur demander « Tu viens cette année pour la chevauchée ?» Tu sais, je vais filmer, etc. En fait, jusqu'au jour où j'arrive sur place, j'avais absolument aucune garantie que les gens soient là. Un, parce que il a un deuil dans sa famille. L'autre, parce qu'il a du boulot qui tombe. Le troisième, parce qu'il est malade, etc. Dans les femmes, j'avais choisi un personnage, le personnage de Carla, qui était notre chauffeur aussi. Et c'est grâce à elle qu'on a fait ces magnifiques travelling sur les chevaux. Et parce que je voulais un personnage qui soit en voiture tout le temps. Et on a tourné quelques séquences avec elle, et au bout de 3 jours, elle a préféré ne plus être dans le film pour des raisons un peu de superstition, une caméra, ça vole l'âme, etc. Et j'ai respecté ça. J'ai peut-être pas su la convaincre de changer d'avis, mais je crois que j'avais pas envie de l'obliger, et voilà. Du coup, j'avais plus que 3 séquences avec elle, et c'était pas assez pour construire mon personnage dans le montage. Parce qu'après, elle a rechangé d'avis, mais c'était trop tard, c'était après le tournage du film. Et comme je connaissais moins les autres filles qui faisaient la chevauchée et qui, elles, étaient à cheval ou en voiture, je pouvais pas me rabattre sur quelqu'un d'autre. Enfin, j'ai du mal à filmer des gens que je connais pas. Donc voilà, c'est un peu un hasard du tournage. Mais il y a beaucoup de femmes qui la font, en fait, et qui la font entière. Il y a une jeune fille qu'on voit quand même régulièrement dans le film qui s'appelle Marissa, et qui, elle, l'a fait très régulièrement, et qui est une super cavalière, et qui l'a fait tout le long. Après, elle était, je la connaissais un petit peu, mais elle était très timide, et devant la caméra, elle voulait jamais parler. C'est une ado. Finalement, quand je parlais avec elle, c'est qu'elle me racontait ses histoires avec les garçons. Voilà. Et quand il y avait la caméra, elle s'éclipsait toujours. Je la connaissais pas encore assez. Finalement, on a appris à se connaître l'année suivante beaucoup mieux. Si je le faisais aujourd'hui, je sais qu'elle serait dans le film.
My tired feet, oh, my tired feet. My tired feet brought me to that red boat, so still in foreign waters. And although I've never been here, oh, although I've never been here, I know that here I've swam before. Oh, well, here I've swam before, and soon I came, oh, so soon I came, soon I came, oh, so soon I came, soon I came to the silent place of choir voices. Jesus, he keeps the heat out. Jesus, Jesus, he keeps the noise out. And here I've sung before. Here I've sung before. I know that. Here I've sung before. Here I've sat, I've run, I've walked, I've died. Oh, I've slept until noon, and I've laughed, and I've sighed. I know that.
before. Mm-hmm. I hear I've sung before.
Eh bien, avant que les Indiens, d'une manière générale, aient des relations avec les premiers Blancs, il n'y avait pas forcément chez eux de notion de nation. Il y avait des tribus, disons, éparses, sauvages, qui vivaient de la petite chasse et de la cueillette. Il y avait les Indiens forestiers, il y avait les Indiens des Rocheuses, il y avait les Indiens du désert. Et il n'y avait pas véritablement de nation, sauf dans les grands groupes de sociétés composites des Woodlands et du Sud-Est. Mais par la suite, au contact des Blancs, ils attrapèrent, si vous voulez, ces notions de nation, en ce sens que c'est dans la lutte, c'est dans la résistance et le dialogue que des concepts non indiens ont été donnés aux Indiens. Donc, si vous voulez, par la suite, effectivement, au milieu du 19e siècle, on parlait de nations indiennes souveraines et indépendantes, car il faut savoir que sur le seul hémisphère nord américain, il y avait à peu près plus de 500 nations qui regroupaient plus de 600 langues différentes.
Et si l'on en croit Jim Harrison, aucune ne fut aussi bien massacrée que celle des Sioux. Stéphanie Gillard, on entend ici la voix d'Olivier Delaveau parler de la manière dont des concepts et des combats politiques ont migré depuis les Blancs jusqu'aux Indiens. Vous disiez tout à l'heure, jusqu'à maintenant, on a produit des films sur la chevauchée en soulignant l'aspect politique, et je ne souhaitais pas faire des films comme ça. La politique n'est pas complètement absente de votre film The Ride, et par ailleurs, lorsque vous parlez de ce film, vous dites combien est-ce que vous avez appris des combats politiques qui sont menés par ailleurs, en dehors de ces 15 jours de chevauchée, lesquels par exemple ?
On peut parler du pipeline. En fait, l'année dernière, il y a eu un grand combat dans la réserve de Standing Rock, qui est la réserve d'où part la chevauchée. Parce que en fait, il y a un pipeline qui partait du Dakota du Nord et qui devait rejoindre, je crois, Chicago. Il devait passer au nord de Bismarck, qui est la capitale du Dakota du Nord. Et puis les habitants de Bismarck, en majorité blancs, ont dit « Ah ben non, ça va traverser le Missouri, ça va polluer notre eau, nous on n'est pas d'accord ». Alors du coup, ils ont décidé de le faire passer au sud de Bismarck, juste au bord de la réserve de Standing Rock. Et là, les Sioux ont dit « Ben non, s'il y a une fuite, ça va polluer notre eau, on n'est pas d'accord ». Et là, ben, on leur a envoyé l'armée et des milices locales. Voilà. Il y a eu un grand combat, un grand camp avec jusqu'à 10 000 personnes, je crois, dans le camp de protestation. Ça a duré 6 mois. Obama avait fini par arrêter la construction du pipeline. Le premier truc que Trump a fait quand il a été élu, c'est
la reprendre.
Le pipeline est fini de construire, il est en fonctionnement et voilà. Mais il y a eu des très grosses manifestations qui ont créé une espèce de mouvement où tout le monde s'est joint à eux. Alors toutes les nations indiennes sont venues, mais d'autres gens aussi. Bah, c'était un mouvement un peu plus général que quelque chose proprement d'Amérindien, c'était aussi lié à l'écologie. Donc voilà, alors la plupart des personnages de mon film étaient des militants activistes de ce camp. Le camp a été à quelques kilomètres de Sharon. Jimmy et Jesse, qui sont les personnages du film, y ont campé pendant 6 mois. Jimmy, aujourd'hui, risque 15 ans de prison. Voilà.
Ça, ce sont pour des combats politiques, on va dire, contextuels à certains moments, qui concernent la vie des réserves et ce genre de projet. Quant à d'autres combats, on va dire, plus en longueur, sur leur mode de vie, sur la manière dont ils doivent ou peuvent faire exister justement leur histoire, parfois leur langue, parfois des pratiques liées à des croyances. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, Stéphanie Gillard ?
Bah c'est compliqué pour eux parce que jusque dans les années 70, ils pouvaient pas pratiquer leur religion ou ou parler leur langue en public, et du coup ça s'est un peu perdu. Il y a de plus en plus d'aînés qui parlent la langue et qui disparaissent les uns après les autres. C'est enseigné dans les écoles, mais pas dans toutes les écoles. Donc c'est en train de disparaître. Ils sont en train de créer des écoles en immersion où on apprend que dans la langue native, pas que chez les Lakota, hein, dans les États-Unis, mais il y a qu'une poignée d'écoles comme ça. Ils se sont rendus compte que ça marchait mieux. Mais c'est compliqué. Moi, par exemple, il y a un des trucs qui me fait halluciner là-bas, c'est que dans les écoles de la réserve, il n'y a pas d'équitation. Ils jouent au basket, ils jouent au foot américain, mais ils font pas de cheval. Enfin, je trouve ça sidérant. Mais quand même, l'histoire du pipeline, c'est contextuel, mais ça révèle aussi beaucoup de choses parce qu'ils défendaient aussi des valeurs, leurs valeurs, leur rapport à la terre. Et comme ils sont indiens, ben, ils ont pas le droit de les défendre. Alors qu'en plus, légalement, ils avaient tous les droits de les défendre puisque c'était en violation totale des traités qui ont été signés avec les États-Unis. Ils brandissaient plus ou moins les mêmes arguments que les Blancs à Bismarck. Et une fois de plus, on les piétine, on les méprise et on ne leur laisse pas le droit à la parole. En fait, c'est surtout celui-là qu'ils aimeraient avoir, c'est le droit à la parole et le droit à être écouté dans leurs valeurs. Il y a cette histoire que raconte Alex White Plume dans le film quand il explique que ils ont été plusieurs fois devant la Cour suprême pour réclamer leur droit de propriété sur les Black Hills. Parce que les traités ont été violés et que les Black Hills ne leur appartiennent plus alors que pour eux c'est un territoire sacré. Et la Cour suprême a fini par dire oui, vous avez raison, on va vous donner je sais plus combien de centaines de millions de dollars. Et eux ils ont dit mais non, nous on ne veut pas d'argent, on veut les terres parce que c'est des terres sacrées. Et cette notion du sacré, ben visiblement comme c'est pas une notion de sacré protestante américaine, ils ne la comprennent pas.
Est-ce que vous avez eu l'impression, en filmant cette chevauchée, de filmer justement quelque chose de très à part sur les États-Unis, quelque chose, pour reprendre les mots de Jim Harrison, de très à la marge?
Ah bah oui.
Non, parce que vous disiez, j'ai l'impression de filmer quelque chose d'universel qui parle au monde entier.
Oui.
Et en fait, en vous écoutant, je me dis, c'est quand même finalement des gens qui sont amenés à quelques, en effet, 450 kilomètres pour faire courir leurs chevaux et eux dessus, quoi.
Oui, ils sont complètement à la marge. Enfin, quand j'allais là-bas, que ce soit à New York ou dans les villes autour de la réserve, et que les gens me demandaient « Ah, vous êtes française, mais qu'est-ce que vous faites par ici ?» Et que je disais « Je viens pour la chevaucher en commémoration de Wounded Knee », j'avais en général un visage très très contrit, très gêné, soit parce qu'ils savaient pas ce que c'était Wounded Knee, soit parce qu'ils savaient exactement ce que c'était et que ça les dérangeait vraiment, quoi. C'est compliqué pour eux de parler de ça. Hein. Tout à l'heure, quand vous lisiez le texte de Jim Harrison sur l'ignorance volontaire du gouvernement par rapport à ça, je vais donner un exemple super récent. Quand il y a eu la tuerie à Las Vegas, tous les médias ont dit que c'était le plus grand massacre de masse de l'histoire des États-Unis. Eh ben non, c'est Wounded Knee et c'est l'armée qui l'a faite. Mais en fait, les Américains veulent pas l'admettre. Ils veulent pas le reconnaître.
112 riders left this morning and they'll be riding on into Wounded Knee. After we have the prayers and we're going into the Wounded Knee District School.
All right, there you guys go. Hope you got that good information there. Thank you.
Fanny Gillard, c'est quasiment la fin de votre film. En tout cas, on entend dans la radio l'arrivée des cavaliers et c'est la fin de la chevauchée. Pourquoi est-ce que vous teniez à ce que ce film sur la chevauchée, sur tout ce parcours, ces 450 km, se termine par une danse?
En fait, j'y tenais pas. En fait, au départ, je voulais finir le film sur les cavaliers qui rentrent dans le cimetière de Wounded Knee. Il y a une cérémonie que j'avais pas le droit de filmer. Il y avait plein de choses que j'avais pas le droit de filmer, notamment toutes les prières le matin, le soir, en cercle, et cette cérémonie.
Et puis, bah, les rushs que j'avais n'étaient pas bons pour cette entrée dans le cimetière. Donc, il a fallu que je trouve une autre solution. Et en fait, l'idée de terminer par la danse, elle est devenue assez évidente très vite. D'abord parce que c'est le point de départ de ce massacre, officiellement, c'est la danse, même si en fait la vraie raison c'est le racisme. Mais le point de départ, c'était le fait qu'ils dansaient. Et l'autre chose, c'est que le film commence avec une danse, il termine avec une danse. Le cercle est super important dans la tradition Lakota, donc ça faisait une boucle aussi. On les voyait tout le temps en cercle avec leurs chevaux. L'idée de finir en cercle avec eux, du coup, ça apportait aussi à cette idée du cercle. Voilà, enfin, c'est toutes ces raisons-là qui m'ont fait terminer par une danse, et puis parce que je trouve ça beau, parce qu'ils sont vivants, ils dansent.
Merci beaucoup Stéphanie Gillard d'avoir été avec nous. Le film s'appelle The Ride, il est en salle mercredi prochain. Puis, puisqu'on en a parlé quand même, citons Sur la piste de Bigfoot. Les photos sont signées Guy Le Quérec, c'est publié chez Textuel et on y retrouve le texte de Jim Harrison.
Children tied into the drum, a newborn's tears with the river did run.
Par les temps qui courent, qu'est-ce qui vous donne de l'espoir?
La musique.
Et par les temps qui courent, justement, que chantez-vous en secret?
Frank Ocean.
Par les temps qui courent, on se retrouve lundi prochain à 21h. D'ici là, bon week-end. Vous pouvez nous retrouver, nous écouter sur franceculture.fr ou en podcast auquel il est possible de s'abonner. Au son ce soir, c'était Bernard Laniel. À la réalisation, Alexandre Fougeron. À la préparation de cette émission avec moi, Corinne Amar, Jeanne Aléos, Laure Chaston et Romain de Bec de Lièvre. Quant à moi, je réponds @MarieRicheux sur Twitter.
Split the light into